Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a des différents symboles. Dans le judaïsme aussi, on connaît beaucoup de symboles. Il y a ce qui... l'étoile de David, ça c'est un symbole très très fort, mais ce symbole, apparemment, il ne vient pas de chez nous. Et je regardais un petit peu, il y a ceux qui disent que c'était développé dans la communauté juive depuis le 19e siècle. On ne le trouve pas avant, peut-être on le trouve chez les autres. En tout cas, ce n'était pas le symbole du judaïsme. Il y a d'autres symboles qu'on utilise, par exemple l'étape de la loi. Ça, c'est un symbole très fort, il est très ancien. Il y a le shofar, donc le corne qu'on sonne Rosh Hashanah, et d'autres différents symboles, mais il me semble que le symbole le plus grand, le plus important, c'est la menorah. La menorah, c'est donc cette base lumineuse qui éclaire, ça s'appelle la menorah, sept branches. Comment ça s'appelle en français, c'est le mot m'échappe. En tout cas, c'est la menorah, donc c'est cette bougeoir en cette branche. Et ça, c'est un symbole. C'était un symbole qu'on trouve depuis très longtemps. Mais certainement que chaque symbole, il a un message. C'est pas seulement qu'il faut trouver un symbole, donc on l'a trouvé. Parfois c'était le lion, parfois c'était l'aigle pour certains. Certainement que le lion lui-même, pour ceux qui utilisent le lion comme symbole, ou pour l'aigle lui-même, pour ceux qui utilisent l'aigle comme symbole, c'est des symboles très fort, c'est pas seulement quelque part, c'est un vrai symbole. Certainement que la menorah, donc cette base lumineuse, donc ça s'appelle en hébreu la menorah, et c'est un symbole très très fort, et ça montre un petit peu vraiment ce que veut dire le judaïsme. Alors, il faut commencer par des choses comme ça, que dans notre monde, il y a parfois une chose dans une autre chose. Parfois on appelle des récipients le contenant et ce qui contient et ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a une phrase qui dit « ne regarde pas le cancan », donc on peut dire il faut pas voir la bouteille, mais il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a parfois un porteur, mais c'est pas l'essentiel. Le porteur, c'est lui qui porte, c'est lui qui contient quelque chose d'autre. C'est pas lui l'important, c'est lui qui se trouve à l'intérieur, il est important. Ça, c'est vrai dans plusieurs domaines. C'est vrai aussi dans le corps humain. Le corps humain, le corps humain, il est parfois beau. Mais dans certains domaines, celui quand on cherche à se marier, par exemple, alors bien sûr qu'on cherche la perfection, quelqu'un qui est beau, mais on cherche surtout quelqu'un qui est beau au niveau mental, bien sûr, quelqu'un qui est beau au niveau intellectuel, quelqu'un qui est beau au niveau sentimental, ou bien d'autres choses. Ça veut dire que finalement, c'est pas le corps qu'on cherche, même si que bien sûr que le corps il peut rajouter beaucoup, mais c'est qu'il y a à l'intérieur du corps. Et finalement, si on trouve une bonne poupée, mais finalement, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas ça, ça crée finalement des problèmes, parce que finalement, le contact humain passe pas par l'extérieur, et ça passe par l'intérieur. Donc, c'est pas par celui qui contient, c'est par ce qu'il y a à l'intérieur. C'est intéressant aussi qu'on voit que deux personnes se regardent, on voit parfois deux personnes qui parlent, et là, ils regardent dans les yeux de l'autre. Et c'est possible qu'après qu'ils ont parlé, ils n'ont pas remarqué des choses extérieures qu'il y avait sur cette personne. Parce que lorsqu'on regarde une personne, quand on est dans une discussion sérieuse, alors à ce moment-là, on ne remarque pas la personne, on remarque ce qu'il y a à l'intérieur. Si on imagine quelqu'un qui nous fait une conférence, alors c'est vrai qu'on essaye de se mettre en état, d'être beau, etc. Mais finalement, c'est pas les cravates qui parlent, c'est pas le costume qui parle, c'est celui qu'il y a, il se trouve à l'intérieur. Donc alors finalement, chez les humains, c'est pas le corps qui est le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, ce que le corps porte. Et bien sûr que finalement, le corps aussi, il a quelque chose à dire, plus que quelque chose à dire. Mais comme on a dit, finalement, l'intérieur de la personne, c'est vraiment lui. D'ailleurs, c'est intéressant que le symbole, tout le monde connaît l'histoire d'Adam et Ève, et le symbole d'Adam et Ève, c'était qu'avant, ils n'étaient pas habillés, ils étaient nus. Et après la faute, d'un coup, ils ont remarqué qu'ils sont nus, et ils ont été gênés. À ce moment-là, ils se sont habillés avec ce qu'ils ont retrouvé. Et à ce moment-là, après, on trouve les notions d'habillage qu'aujourd'hui, ça prend beaucoup d'importance. Et parmi les explications, c'est qu'est-ce qui a changé. Avant, on n'était pas habillé. Et là, d'un coup, c'est absolument important d'être habillé. Alors, parmi les raisons, c'est justement qu'est-ce qu'avant, lorsqu'on a regardé là, on a regardé l'autre, on a vu l'intérieur de la personne. Comme exactement, ou peut-être presque exactement, comme deux personnes qui se parlent, ils ne remarquent pas l'extérieur, ils remarquent l'intérieur. Mais avec la faute, alors d'un coup, on ne remarque pas l'intérieur, on remarque en tout cas moi l'intérieur, on remarque surtout l'extérieur. À ce moment-là, il y a des choses qui gênent, il faut les cacher. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est habillé, parce que sinon on va se baser sur l'extérieur et ce n'est pas l'essentiel. En tout cas, ça c'est clair que dans plusieurs domaines, ce n'est pas ce qu'on voit à l'extérieur qui compte, même si ce n'est pas rien, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça qui compte. Donc si on veut un homme intelligent qui veut se marier, par exemple, cherche une personne comme lui, intelligent, bien, gentil, qu'on peut rigoler ensemble. Mais si c'est qu'il y a le corps, finalement, c'est pas forcément que ça tient toujours. Et donc, alors, si c'est vrai pour toute humanité, c'est vrai aussi pour le judaïsme, encore plus. Parce que dans le judaïsme, on donne une importance à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. La profondeur. Alors, à ce moment-là, on peut comprendre que la menorah, donc cette chandelabre, que c'est une base lumineuse, mais en tout cas, l'idée, c'est que finalement, ce n'est pas le corps qui est important, c'est le fait qu'il éclaire. Donc, c'est vrai pour tout. Mais c'est surtout c'est le symbole de la lumière. Le porteur de la lumière, il est là justement pour tenir et pour développer la lumière. Donc alors là, on peut comprendre que si dans le judaïsme, on essaye de développer notre intérieur, notre profondeur et mettre ça en avance, alors à ce moment-là, l'idée de ce symbole, il y a beaucoup de symboles, mais ces symboles sont vrais pour certains détails. Mais si on veut montrer toute la profondeur du judaïsme, alors c'est plutôt cette chandelabre qui représente cette idée qu'il faut se concentrer sur l'intérieur, parce que tout le but c'est pour éclairer. Et ce qui éclaire, c'est l'intérieur qui éclaire, ça veut dire que c'est finalement celui qui rentre dans le verre, ou bien celui qui rentre dans le récipient. Donc c'est la bougie qui, ou bien la lumière, la bougie qui, au fait, la lumière, le feu qui sort de cette bougie qui se trouve sur cette candélabre, c'est C'est ça qui est important, et c'est ça qui est le plus important. Alors, même si qu'il y a aussi le chandelabre est déjà, doit être beau, comme il est marqué dans notre paracha, mais finalement, c'est un récipient pour ce qu'il y a à l'intérieur, pour ce qui est plus important. Donc, on comprend le rapport entre les deux choses. Maintenant, donc, dans notre paracha, on va parler, on va commencer dans notre paracha. Il y a beaucoup de sujets. Parfois, on peut, si on veut, couper la paracha en 7 parties, parce qu'il y a plusieurs sujets. Mais on commence par justement par le candélabre. Et il est marqué au début de cette paracha que Dieu, il dit à Moshe, dira à Aaron, son frère, donc le grand prêtre, que lorsqu'il fait monter les bougies, il faut que ce soit vers le centre de la menorah, du candélabre. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de cette menorah. On a déjà parlé 2 fois dans la Torah. Une fois, là où on parle de la construction des temples, en fait, oui, des temples de l'époque de Mishkan, et là, il est marqué qu'il faut faire cette menorah, cette candélabre. Il est marqué que les bougies, en tout cas, elles doivent être centrées. D'une part, c'est un candélabre de 7 branches, mais d'une autre part, il faut qu'il y aura, ça veut dire que ça va être fait de telle manière que finalement les bougies elles vont aller vers l'intérieur. On va pas parler maintenant de ces symboles, peut-être plus tard, mais il faut que ce soit centré vers l'intérieur, vers le centre. Et ici, la Torah, elle répète la même chose, mais elle a déjà dit un petit peu cette idée dans une autre paracha. On se pose la question pourquoi la Torah, elle répète. Rashi explique, c'est que cette paracha, elle vient après la paracha de la semaine dernière. Dans la paracha de la semaine dernière, on a parlé, encore une fois, de l'inauguration du temple. Là aussi, on parle 3 fois, mais chaque fois, on parle d'un autre sujet. Ici, on a parlé de l'inauguration. Et à l'occasion de l'inauguration, il y avait le prince des 12 tribus, le chef des tribus, le président des tribus, qu'ils ont apporté, il nous semble qu'on a parlé de ça la semaine dernière, et ils ont apporté des cadeaux, des sacrifices, qui correspondent aux histoires juives. Ça correspond à beaucoup de choses, quelque part c'était très symbolique. Et chacun, pendant 12 jours, chacun il a apporté ses cadeaux, ses sacrifices, et aussi ses ustensiles qu'il a apportés. Et donc pendant 12 jours d'inauguration. Mais Aaron, il n'a pas participé. Pourquoi? Parce qu'Aaron, il n'était pas parmi les 12 tribus. Il y a les 12 tribus et celle de Lévi. Ici, en tout cas, maintenant, c'est le 13e. Parce qu'à l'origine, il y avait 12 enfants, 12 tribus dans le peuple d'Israël. Et à un moment donné, la tribu de Lévi est sortie. Il est à part. Donc, il n'est pas parmi les 12. Et à la place de Lévi, les tribus de Yosef s'est divisée en 2, comme il est marqué dans la Torah. Donc on trouve Menaché et Ephraim à la place de Lévi, à la place de Yosef. Ça veut dire Yosef, il est 2, Menaché et Ephraim, ou bien Ephraim et Menaché. Et donc ça remplace le 12e de Lévi qui est à part. Bien, on trouve donc dans la communauté d'Israël 2 mouvements, ou bien 2 sortes de personnes. Il y a tout le monde, qui sont les 12 tribus, et la tribu de Lévi, qui est concentrée pour les choses saintes, comme il est marqué, Lévi et Cohen. Donc, c'est parce que parmi les Lévi, il y a les Cohen. Mais en tout cas, ils sont concentrés pour les choses saintes, et les autres, ils font du travail plutôt. Comme tout le monde, ils font du travail pas sacré, du travail de tous les jours. Et donc, alors, les 12 tribus, ils ont apporté des cadeaux inaugurales. Par contre, celle d'Aaron, celle des tribus de Lévi, qui était représentée par Aaron, il n'a pas fait. Donc, il était un peu gêné. Et à ce moment-là, Dieu, il a dit, tu ne dois pas être gêné. Il n'est pas marqué le mot gêné, il est marqué un petit peu différent. Tu dois être gêné parce que ce que tu fais est encore plus important que ce qu'eux, ils le font, parce que toi, tu allumes la menorah. Tu allumes cette candélabre. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, Selon ce qu'on vient de dire, chacun a son rôle. Dans le soudaïsme, il y a des différents rôles. Et parfois, le rôle de l'un, ce n'est pas le rôle de l'autre. Il y a un là qui doit être plutôt spirituel et l'autre qui doit être plutôt matériel. On vit dans un monde matériel et pas tout le monde doit être dans ce niveau. Dieu, il a créé un monde où il faut vivre là-dedans, il ne faut pas l'ignorer. Mais il y a certaines personnes que leur rôle, c'est un petit peu loin de ce monde, mais la majorité des gens, ils doivent être bien présents dans ce monde. Donc, c'est des rôles différents. Aaron, donc, comme on a dit, le frère de Moshe, il était gêné, qu'il n'a pas participé. Et Dieu lui dit, le tien est plus important que le sien. Pourquoi? Parce que toi, tu allumes la menorah. Ça veut dire qu'il y a ceux qui font des sacrifices. Alors là, on ne va pas parler des symboles de sacrifice. Il y a beaucoup de symboles. Mais toi, Aaron, tu allumes la menorah, donc cette candélabre. Et c'est encore beaucoup plus important. Mais selon ce qu'on a dit tout à l'heure, dans le judaïsme, il y a beaucoup de rôles. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est lui qui porte la menorah, c'est lui qui porte le candélabre, c'est le plus important. C'est là où on voit, c'est là où c'est beaucoup plus important. Alors, tout d'abord, pour la raison qu'on a dit tout à l'heure, que dans notre vie, parfois, il y a des fois où on se concentre sur l'extérieur et pas sur l'intérieur. Sur les choses moins importantes et pas les choses les plus importantes. Et être attaché avec la menorah, allumer la menorah, allumer le candélabre tous les jours, normalement selon Rashi tous les soirs, ça c'est un travail encore beaucoup plus important. Alors maintenant on va un petit peu développer cette idée, car il y a dans cette paracha, il y a quelques questions. On a dit tout à l'heure que cette histoire de candélabre, la Torah elle répète. Il y a quatre psukim, quatre versets, mais quand même c'est une répétition. On se demande pourquoi la Torah elle répète. Et il y a quelque chose d'intéressant qu'il est marqué ici, c'est que donne la Torah elle signale ça d'une façon pas très claire, mais il faut comprendre comme ça, que tous les autres ustensiles de temple, ça a été fait par telle et telle personne. Il y avait des gens intelligents qui faisaient. Ça veut faire des choses très artistiques. Et donc, il y avait Bezalel, qui était quelqu'un un artiste extraordinaire, comme la Torah nous dit, et il y avait avec lui Aholiav, et il y avait encore beaucoup d'autres personnes qui étaient extrêmement intelligentes, ils savaient faire de belles choses. Donc, alors, on sait que la chose, même si c'était des choses qui était une base pour la spiritualité, mais c'était des gens dans le monde matériel, des gens réfléchis, des gens qui porteurs d'une intelligence matérielle, qui l'ont fait par une réflexion, par une compréhension, par un don qu'ils ont dans leurs mains, qu'ils ont fait. Sur la menorah, il est marqué quelque chose d'étrange. Cette menorah, il est marqué que Moshe, il ne savait pas comment le faire. C'était compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Dieu lui a montré d'abord comment on le fait, comment il doit être. Et ensuite, il n'arrivait pas. Alors, Dieu, il a dit, fais telle et telle chose, et ça va se faire d'elle-même. Il y a des différentes manières de voir les choses, mais là, on va rester plutôt dans le symbole de cette idée. Ici, quand on lit les textes, on peut comprendre que c'est plutôt ça. Ça veut dire qu'elle était faite d'elle-même. Ça veut dire quoi, être faite d'elle-même? Alors, là aussi, il y a beaucoup d'explications et de significations, mais on va essayer de voir d'une autre manière, basée, en tout cas, il me semble que c'est basé sur l'enseignement du Rabbi de Lubavitch, c'est très intéressant. Dans la vie, il y a parfois des choses qu'on fait, et les choses sont faciles. Ça va d'elle-même. Et parfois, il y a des choses qu'on fait, il faut faire beaucoup d'efforts pour que les choses se réalisent. Si on revient à l'idée de la lumière et des feux, alors on sait d'ailleurs, dans les lois de Shabbat, il faut allumer les bougies de Shabbat, bien sûr, la veille de Shabbat. Toutes les femmes juives et filles allument les bougies de Shabbat, comme ça on reçoit Shabbat. D'ailleurs, si il n'y a pas une femme à la maison, donc c'est l'homme qui allume, mais normalement, c'était plutôt donné à la femme. Alors, il y a des lois quelles bougies il faut utiliser, quelles bougies il ne faut pas utiliser. Aujourd'hui, c'est simple, on achète des bougies en allume. Mais à l'époque, les gens, ils ont créé leur propre huile. Donc l'huile, on peut trouver dans différentes matières. Et des mèches aussi, on peut faire à partir de plusieurs matières. Mais la Mishnah nous donne toute une liste de ce qu'on peut utiliser et ce qu'on ne peut pas utiliser. Et pourquoi? Parce qu'il y a des mèches qui vont aller bien. Ça veut dire qu'ils vont bien garder la lumière. Il y a des mèches que ils ont du mal. C'est pareil aussi pour l'huile. Il y a de l'huile qui vont couler avec le feu. En fait, ça veut dire que ça va être très doux et très bien, comme d'ailleurs l'huile d'olive, qu'on considère que c'est parmi la lumière la plus noble. Et ça veut dire le feu de lumière le plus noble. Et il y a de l'huile que ça va pas, ça va éteindre, ça va allumer, même si ça va durer, ça fait faire des bruits. Et ça, il y a donc certaines huiles qu'on nous dit que c'est déconseillé ou même c'est interdit d'allumer avec ça. Pour une raison simple, que ça va pas être agréable pour certains, ou bien parce que ça va être éteint, on va rester sans lumière, au Shabbat on peut pas rallumer, etc. Donc ça veut dire qu'il y a des matières qui sont bien inflammables, ils sont très bien. Ils s'allument bien, et il y a certains qui sont opposés au feu. Ça ne va pas marcher très bien. D'ailleurs, on voit que s'il y a quelque chose qui est mouillé, qui va être brûlé, ça va faire de bruit parce qu'il y a une notion d'opposition. Ce n'est pas très inflammable. Donc, on a du mal. Alors, à ce moment-là, là aussi, on peut dire que si on prend la menorah comme un symbole, alors il y a des personnes qui sont inflammables dans le côté positif comme dans le côté négatif. Là, on parle plutôt du côté positif. De même qu'il y a des gens qui facilement ils s'énervent et on n'a pas besoin de grand-chose. Il y a aussi des gens qui facilement ils arrivent à lire, ils arrivent à comprendre, ils arrivent à s'intéresser. S'il s'agit de quelque chose qu'il faut apprendre à l'école ou bien ailleurs, il y a des gens que facilement on les met devant un livre, on les met devant un renseignement, alors tout de suite ils sont là. Mais il y a des gens que ça va être beaucoup plus, ils sont moins inflammables. Il faut travailler très dur pour le faire bouger. Et finalement, si on a la bonne manière, on va arriver à allumer tout le monde. Mais il y a certaines qui ça va être très facile, il y a certains que ça va être très très difficile. Et d'ailleurs, on dit que tous les enfants sont bons, seulement qu'il faut savoir comment on l'allume, comment on le donne envie. Mais tous les enfants, bien toute personne, ils ont des bons là-dedans, mais ça dépend combien il faut rentrer, combien d'efforts il faut faire. Donc alors, dans la menorah, ici, on a 7 branches. Pourquoi il y a 7 branches? Parce qu'il y a de différentes manières. Il est marqué dans la chassidut le symbole de 7 branches, mais là, on va parler plutôt de deux manières de... Il y a certaines qui sont inflammables facilement. C'est facile. Donc, s'il s'agit de quelque chose de positif, je veux qu'il réagisse d'une façon positive, qu'il soit gentil, ça suffit de dire, ça suffit de lui montrer quelque chose, et il est déjà là. Mais il y a des personnes que pour pouvoir toucher ses sentiments, il faut faire beaucoup d'efforts, qu'il voit des choses vraiment graves pour qu'il se réveille, ou bien parfois même il faut des drames qu'il bouge, que Dieu préserve. Alors là, on peut appeler ça, cette idée, il y a des gens qui sont plus facilement abordables, même inflammables, il y a des gens qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Et pourtant, alors si on considère, le rabbi il fait allusion en fait que dans les symboles juifs, il y a deux sortes de symboles. Il y a des symboles au chiffre 5, il y a des symboles comme le chiffre 5 comme la Torah, qu'il y a 5 livres de la Torah. Il y a le symbole des 7, que aussi on trouve dans la Torah, mais ça va encore plus à l'extrémité. Ça veut dire que, au début, on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans. Donc il y a des éléments qu'on dit, ça fait pas partie de la menorah, ça fait pas partie de quelque chose qu'on peut allumer, ça fait pas partie de ceux qui peuvent donner des lumières. Comme on a dit tout à l'heure, qu'ils ne sont pas très inflammables. C'est des gens, si on va prendre, d'ailleurs j'ai entendu cette image, qui ont dit que dans l'école, alors il y a, je sais pas, il y a, on va dire, il y a 20 élèves, alors 5, 4, 3 élèves, ils sont le paradis des maîtres. Ils sont toujours là, ils sont toujours en train d'écouter. Et on va dire 5 ou je ne sais pas combien d'élèves, c'est l'enfer je voulais dire, des maîtres. Ils font des problèmes, ils ne laissent pas parler, parfois ils jettent des avions, des choses derrière. Et la majorité, ils sont ni mi-figue, mi-raisin, en fait, ni l'un ni l'autre. Et le but de. Bien sûr qu'on préfère que tous nos élèves soient cet paradis, mais on a d'autres élèves. Donc il faut que les maîtres s'adaptent à tout le monde et qu'ils allument tous ces bougies. Donc alors là aussi, dans le candélabre que représente la nature humaine, il y a ceux qui s'allument facilement, et ça représentait pour le chiffre 5. Là aussi, on ne va pas rentrer dans les détails. Et il y a ceux qui sont visiblement des gens de problème. Mais si on l'utilise bien, si on fait, on sait très bien comment faire, comment les intéresser, alors finalement, le mal devient bien. Le négatif, on va peut-être donner un exemple. Il y a donc les enfants qui sont d'accord. On donne des cours, ils sont d'accord. Il y a ceux qui posent des questions parce qu'ils ont vraiment des questions. Mais après, il y a des élèves qui peuvent poser des questions qui provoquent. Pourquoi ils provoquent? Alors parce que, pour une raison ou pour une autre, mais en tout cas, ils provoquent. Mais si le maître, il sait bien comment faire avec eux, et finalement, il arrive à les allumer aussi, alors à ce moment-là, la menorah, donc la candélabre, elle va être beaucoup plus large, comme cette image. Que quand on a une menorah de 5, elle est beaucoup moins loin que cette menorah, en fait, une branche de l'autre, les deux extrémités de la menorah, que s'il y a les 7. Le but, c'est arriver beaucoup plus loin, éclairer plus loin, et arriver à entraîner et faire rentrer dans cette menorah, même les gens qu'autrefois, ils ont été à l'extrémité. Et ça, c'est un petit peu le symbole de notre paracha, que dans notre paracha, il y a les problèmes qui commencent. Donc, jusque-là, il y avait, d'une façon générale, il y a des problèmes par-ci et par-là. Mais jusque-là, il y avait de bonnes choses. Depuis la sortie de l'Égypte, en fait, depuis la création, il y a des problèmes. Et là, d'un coup, dans notre paracha, au milieu de notre paracha, et jusqu'à presque la fin de notre livre de Bamidbar, il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur de nous, de chez nous. C'est pas un problème qui arrive de l'extérieur, forcément. C'est un problème qu'il y a chez nous. Là, ça va pas, et là, ça va pas, et là, ça va pas. Alors, apparemment, ça fait partie de la menorah. C'est quelque chose de négatif. Et c'est ça le symbole que si on sait diriger bien, si on sait gérer bien, alors à ce moment-là, ils font partie de cette lumière, et non seulement qu'ils font partie, il développe, il amène la lumière beaucoup plus loin, et donc ça devient tout ça un ensemble de cette grande menorah, donc qui est le symbole du judaïsme. Que le symbole du judaïsme, c'est effectivement éclairer encore plus loin, éclairer encore plus loin, et utiliser ce qui est encore plus loin pour éclairer. Et ça, c'est bien sûr la vision du judaïsme de toujours, mais surtout à la veille de Mashiach, où c'est ça le symbole de ne pas avoir peur des difficultés. En fait, difficultés chacun il a, on essaye de ne pas avoir de difficultés, mais même lorsqu'on a des difficultés, utiliser ça pour un tremplin, pour une base de lumière, une future lumière, comme ce symbole de la menorah. Merci pour votre écoute. Et à la semaine prochaine.
fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.